L'expérience commence. Qui comprend le rapport entre Oum Kalsoum et son public comprendra, dit-on, le monde arabe. L'écrivain journaliste Selim Nassib fait l'expérience de se glisser dans la peau du poète Ahmed Rami, qui a composé plus de la moitié des chansons d'Oum Kalsoum. Avec le compositeur Philippe Cohen Solal, il vous invite à un voyage pour sonder le rapport sentimental et tragique du monde arabe à son histoire au XXe siècle. La réalisation est signée Céline Terce.
Nous sommes le 28 février 1922. Après un très long voyage en bateau, puis en train, je suis jeté au centre du Caire. Et là, nous sommes bloqués par des foules énormes qui ont envahi les rues, toutes les rues. Vive l'indépendance, vive Saad Zarloul, enfin libre. J'en ai les larmes aux yeux. C'est vrai que des milliers de soldats anglais continuent de contrôler le canal de Suez, mais qu'importe pour l'instant. Nous fêtons une première et grande victoire, la fin du protectorat. Et moi, Ahmed Rami, rêveur et poète, c'est plein de cette victoire que je rentre à la maison. Elle, Oum Kalsoum. Un formidable dîner familial m'accueille. Ma mère me serre et me resserre, comme si je devais avaler le pays natal en un seul repas. Je reconnais les enfants, qui murmurent timidement leurs prénoms. J'ouvre les bras à d'autres, qui sont nés derrière mon dos. Les parfums de l'Égypte, à plein nez. Au milieu des embrassades viriles, des rires. Au milieu de l'arabe surtout, l'arabe de nouveau. La musique de fond, de cette langue magnifique, mon vrai pays. Tout le monde veut savoir comment c'est Paris. Je viens d'y passer 3 longues années pour apprendre le persan à la Sorbonne. C'est que je veux traduire les roubaïettes, les fameux quatrains, écrits par Omar Khayyam il y a plus de 1000 ans. Les traduire directement, du persan à l'arabe, sans passer comme toujours par l'intermédiaire de l'anglais. Parce que la décolonisation, c'est aussi par la langue. La nuit est tombée. Mon ami Abdel Wahab m'emmène au centre du Caire, dans les jardins de l'Esbekia. L'air est chargé de psalmodie, de musique, de senteurs. Dans un coin, un concert, sous les arbres, non loin du Nil. 2 paysans, vêtus de la longue goubba brune et coiffés de turban, et un garçon debout devant eux, comme effrayé, les mains jointes sur le ventre, sévère comme un adolescent. Son corps est couvert d'une cape bédouine, une coiffe lui enserre le visage. La musique, 3 pauvres instruments, un oud, un kanoun, une kamanja. Mais le texte, ah le texte, je le reconnais tout de suite, c'est mon texte à moi. Mon poème. Abdel Wahab sourit. C'était sa surprise. Et cette voix, le chant ne sort pas simplement de la gorge de l'enfant, Son corps entier semble s'essorer pour le projeter à l'extérieur. Pendant plusieurs minutes, il fait des variations sur deux seuls mots, Yel et Il, ô nuit. Et moi, ma gorge se serre jusqu'à éclater. Abdelwahab est l'un des meilleurs musiciens du pays. Tout le monde le connaît. Il m'entraîne derrière les arbres. Devant nous, l'adolescent imberbe se débarrasse de sa coiffe d'un geste presque impudique qui libère une chevelure noire et abondante. Une fille. Elle porte le nom de la troisième fille du prophète, Umm Kalsoum. Son père dirige la petite formation et la tient à l'œil. Il l'a déguisée en garçon parce qu'il veut bien empocher les bénéfices de sa voix d'or, mais chanter en public pour une fille, sa fille, c'est indécent. Ce soir, j'ai chanté pour vous. C'est la première chose qu'elle me dit, droit dans les yeux.
ليه ما تكتبليش اغاني اقدر اغنيها حاجات يفهمها الناس العاديين
الفلاحين. Elle me demande si je ne veux pas écrire des poèmes pour elle, des poèmes en arabe populaire, pour que les hommes ordinaires, les paysans, puissent comprendre ses chansons. Dans le même souffle, je lui dis oui. Le lendemain, je sors et le Caire m'ouvre les bras. Plus un seul soldat anglais dans les rues. L'air lui-même semble amoureux. Le colonialisme qui nous entravait touche à sa fin. Nous inaugurons une époque nouvelle. Penseurs, écrivains, intellectuels s'élancent, pas pour rattraper l'Occident, mais pour inventer un modernisme d'Orient. La même nuit, un poème me vient tout seul. Un poème pour elle. Ça s'appelle « La passion se trahit par les yeux ». Dès le lendemain, je cours le lui porter. Une femme bien enveloppée m'accueille. Elle dit « Je ne suis que Saadia, son autre mère. La petite a grandi sur mes genoux. » La petite entre à ce moment. L'ombre du père apparaît à la porte. Nous nous asseyons côte à côte. Je lis. Elle garde les yeux fermés et semble ne pas entendre. Ses lèvres bougent légèrement. Ça ressemble à une prière. Soudain, elle frémit, comme si elle perdait le contrôle de son corps. Je tremble. J'ai l'impression d'être entré par effraction dans ce lieu terrifiant où l'instinct des femmes est plus fort qu'elle. C'est comme ça que l'aventure a commencé. Thank you. Elle avance sur le devant de la scène, un peu pâle. Elle a remis sa tenue de bédouin. Ses yeux m'agrippent, moi seul, assis au premier rang. Et sa voix fuse, tout de suite forte, tendue comme un fil de fer. C'est mon poème. Lentement, elle se laisse gagner par l'état de transe que je lui connais. Un sentiment violent m'envahit. Elle se lâche. Et de plus en plus. Dans la salle, les hommes voient le frémissement de ce corps, et comme il se donne à eux, et comme il se refuse. Ce n'est qu'un petit garçon. J'ai envie de sauter sur scène, l'envelopper d'un voile qui la soustrairait au regard. Derrière moi, son père, mâchoire tombante, yeux exorbités. Une chaleur brûlante ronfle en lui, une honte sans limite, tout comme moi. Au même moment, il est submergé. Éperdu d'admiration, noyé lui aussi dans une jouissance, le tarab, l'émotion sans fin. J'écris pour elle poème après poème, sans jamais être payé. Malgré le succès, elle reste la petite paysanne montée de son village de Tamaï Zaharia, alors que d'autres vedettes de la chanson brillent, comme Mounir al-Mahdiya par exemple, l'envoûtante, la scandaleuse, qui se déhanche sur une musique de Abdel Wahab. Saad Zarloul, le père de l'indépendance, meurt d'un coup. 40 jours plus tard, il est temps de lever le deuil. Et ma protégée est invitée à chanter pour l'occasion. Dans le salon illuminé de Safia Zarloul, la veuve du disparu, elle ose enfin. Elle a envoyé paître, père, frère, village. Elle apparaît enfin en femme, aux yeux de tous. Nue-tête, cheveux noués en chignon. Vêtue d'une longue robe verte incrustée de paillettes dorées. Safia lui a prêté un collier et des boucles d'oreilles serties de pierres précieuses. Et elle chante, tête levée. À un moment, elle ne peut réprimer un bref sanglot. Le lendemain, toute la presse publie en première page cette photo d'elle. Adieu Saad. Kalsoum est lancée. Elle se laisse aller dans les coussins, yeux mi-clos, bouche entrouverte, paume tournée vers moi. Sans la regarder, Je lui dis le poème que j'ai composé pour elle pendant son absence. Toi qui t'en vas, garde mon amour dans ton sillage. L'amour s'est adouci et m'a donné rendez-vous. Puis cet autre que le concert du Bosphore m'a inspiré. Ta voix parcourt mon corps et mon âme. Mes vers sont composés de mes larmes. Je croyais être le seul. Je réalise soudain qu'elle reçoit chaque jour des hommes différents, la ville entière, les poètes, les meilleurs musiciens, en secret. Mais moi alors, que suis-je pour elle? L'insomnie me tient éveillé jusqu'à l'heure. Je finis par rallumer pour écrire ce qui me rend malade. Tu charmes d'autres que moi et tu souris. C'est clair maintenant, je l'aime et elle me repousse. Mes poèmes expriment mon amour impossible, mon désir brûlant qui ne rencontre que le vide. Et elle les prend, ces poèmes, elle les prend et les chante sur scène. Sans vergogne, elle livre mon secret aux quatre vents. Ma douleur à moi devient son message à elle. Et les salles enfiévrées se reconnaissent dans mes mots, se mettent debout, crient tout comme moi, leur espoir déçu, et comme moi, tendent leurs bras vers elle, diva insaisissable, vierge immaculée. Je continue en même temps d'écrire des poèmes pour Abdel Wahab. Il prend son oud sur les genoux, lit mon poème ligne après ligne, et à ma stupéfaction, m'agresse. Tu as changé. Je ne te reconnais plus. Tu ne vois plus qu'elle. Tu l'as lancée. Elle n'a plus besoin de toi. Laisse tomber. Travaille avec moi maintenant. Sors avec moi. Viens dans les cafés. On va rencontrer des femmes. Interloqué, je bafouille. Je décline son invitation. Elle et lui gravissent les marches de la gloire, mais chacun de son côté, rivaux pour toujours. Un jour pourtant, il lui transmet une invitation à la grande fête que Mounira donne, la chanteuse scandaleuse. Les jardins de Mounira sont enchanteurs. Des canapés ont été disposés sous la lune. Plusieurs jeunes filles sont assises au bord de la fontaine. L'eau tombe sur leurs épaules nues. Elles rient comme des gamines. Ma paysanne est troublée. Elle rejette la tête en arrière. Mais j'ai eu le temps de voir ses yeux d'envie, deux étincelles dans le noir. Son corps agrippé au coussin, peur et désir, aussi puissants l'un que l'autre, peur du désir. « Ces 78 tours se vendent maintenant par dizaines de milliers. Elle fait ça le comble. Elle s'achète une villa dans le quartier chic de Zamalek, au bord du Nil. Elle ne me paye toujours pas. Elle me dit, je crois que dans un couple comme le nôtre, il faut une confiance aveugle. Un lien, peut-être trouble, je ne sais pas, mais exclusif. Je comprends tout de suite ce qu'elle essaye de me dire. Tu veux que je n'écrive plus pour Abd al-Wahhab, c'est ça? Elle répond avec véhémence. Il a tous les poètes qu'il veut. Toi et moi, c'est différent. Ma voix mourra avec moi. Mais que chante cette voix? Un seul long poème, ton poème, c'est tout ce qui restera. Je dis, tu m'offres la vie éternelle, c'est ça? Son visage change du tout au tout. Sa voix est soudain pleine de colère. C'est moi qui porte ta poésie sur scène. Tu me dois tout. Et d'abord ta loyauté. Si tu continues à t'obstiner, je regretterai à jamais de t'avoir connu. Les lumières jaunes et blanches de l'autre rive du Nil se reflètent sur toute la largeur du fleuve, jusqu'à moi. Elle regrettera à jamais de m'avoir connu. Ça m'a détruit. Mes pas m'ont conduit au hasard dans ce quartier populaire d'Imbaba. Bidonville immonde, ruelle obscure, odeur d'égout crevé, toute cette misère. Seule l'obscurité me cache. L'appel à la prière du soir retentit. Depuis le balcon d'une maison en bordure d'un terrain vague, l'imam a déjà commencé son sermon. Et nous autres, nous n'en possédons que ce sang qui coule dans nos veines, bouillant de force, que cette âme qui brille de foi et de dignité, que cette vie et ces quelques piastres prises sur la nourriture de nos enfants. Il reprend. Et nous voyons les oisifs se prélasser à la terrasse des cafés ou dans les salles de spectacle. Qui sont-ils? Des Égyptiens comme nous, des Arabes, des musulmans, fascinés par l'Occident, désireux de copier ses façons de vivre et de s'habiller. Ils n'ont qu'une seule occupation dans la vie, tuer le temps. Les gens commencent à me jeter de drôles de regards. Ma cravate, mon béret. Sans réfléchir, je tourne les talons. Je n'ai rien à faire ici. Je marche vite, presque à courir. Je heurte des gens qui se retournent. Devant la dernière maison du bidonville, il y a une vingtaine d'hommes assis par terre. Les mêmes que devant la mosquée. Des paysans, misérables, perdus. Ils écoutent une musique qui tombe des fenêtres ouvertes. Le crachotement d'un phonographe. La voix qui les réunit est celle de ma diva. Et le poème, le mien. Mon paradis dans ton amour. Je sonne à la grille de la villa, comme le parent pauvre que je suis. Un premier salon. Mobilier européen, il n'y a personne. On dirait une salle d'exposition. Un serveur en veste blanche vient me présenter le café. Je demande, elle est où ? Il me dit, au sous-sol. Au sous-sol ? Quelle drôle d'idée. La lumière du jour s'estompe au fur et à mesure que je descends l'escalier. Une odeur de garde-manger me prend aux narines. Alignement de sacs de jute, fèves, lentilles, sucre, farine, bocaux géants. Tout vient du village, hommes, nourriture, senteurs. Elle a reconstitué Tamay et Zaharia dans les soutes de sa villa. Son monde d'en dessous. Et tout au fond, sa chambre à elle. La porte est entrouverte. Je ne sais pas ce qui me prend, je la pousse. Dans la pénombre, je devine plusieurs silhouettes, femmes entre elles, cinq, demi-nues dans cette chaleur, assises sur le matelas par terre, dans le désordre des draps, et elle au milieu. Quelque chose d'une sensualité formidable, féminine, dévoilée. Je devrais reculer et sortir en m'excusant. Je reste paralysé. Elle devrait se reprendre et se couvrir, mais devant mon air ahuri, elles éclatent de rire. Elles essayent de se reprendre, mais l'une entraîne l'autre. Rire sans fin. Madiva veut me montrer son visage habituel. Elle rit de plus belle. Je comprends que la jeune fille que je vois depuis 7 ans n'est que l'une des possibles. Elle a passé son temps à serrer les dents pour tenir. Parce que dans ce pays, aimer les femmes quand on est une femme, c'est une honte indélébile. Mais là, la façade craque. Et derrière, je découvre quelque chose de débridé, de grivois, d'un peu vulgaire pour tout dire, attirant comme un péché. Quel homme peut prétendre la dominer alors qu'ils sont tous à ses pieds ? Elle a cherché la paix dans son propre sexe, secrètement, elle, homme et femme à la fois, et mère par-dessus le marché puisqu'il y a « dans son nom. Mère de tous et mère sans enfant, et sainte aussi, parce qu'elle descend du prophète et porte le nom d'une de ses filles. Mais femme quand même, bien sûr, femme d'aucun homme, tour de chair vibrante et pourtant intouchable. J'ai lié ma vie à une impossibilité vivante, une divinité hermaphrodite, un monstre. Les années ont passé. Je suis marié. J'ai un petit garçon. Elle entre chez moi sans frapper, comme une furie. Je veux chanter les Rubaïyat de Khayyam. Je reste sans voix. Ne me pose pas de questions. Mettons-nous au travail. Les mains tremblantes, j'ouvre le recueil de poèmes que j'ai traduit. Ça fait un moment, une rumeur court qu'elle s'est secrètement mariée à un violoniste et que le palais l'a obligée à divorcer. Ils auraient menacé de l'interdire de radio et elle a cédé. Si elle a décidé de chanter Khayyam, c'est pour se venger. Éteins le brasier du cœur avec un verre de vin. car les jours passent comme des nuages. Tu chanterais ça, toi ? Elle répond : Non. Je dirais : Éteins le brasier du cœur avec le miel de ta salive, car les jours passent comme des nuages. Oui, je chanterai. Elle a chanté et une tempête s'est levée contre elle. Le palais annule tout de suite le concert qu'elle devait donner au palais d'été. À la place, elle décide de chanter les Robaillettes ce même soir au théâtre populaire d'Alexandrie. Un récital gratuit. Maintenant, elle veut la guerre. C'est l'été. Je rêve sur le balcon, la radio en sourdine. Communiqué numéro 1. Les officiers libres ont pris le pouvoir sans effusion de sang dans le courant de cette nuit du 23 juillet 1952. Un coup d'État. Les militaires ont pris le contrôle des lieux du pouvoir. Vide en été. Ils veulent venger l'humiliation subie 4 ans plus tôt, la défaite de 48. Les armées arabes vaincues, les Palestiniens chassés de leur pays, la proclamation de l'État d'Israël. Le roi a abdiqué, le nouveau pouvoir s'installe. Les chansons de Mandiva ne passent plus à la radio. On l'accuse d'avoir chanté pour l'ancien régime. La disgrâce. Saadia arrive en courant. Le téléphone, la ligne privée, vite. Je suis Oum Kulsoum dans sa chambre. Elle me fait prendre des écouteurs. « Lieutenant-colonel Nasser, » dit une voix grave et amicale. Elle dit, « Vous avez relevé nos têtes. » Il dit, « La vôtre ne fut jamais baissée, sauf devant Dieu. » J'ignorais qu'on vous avait interdit d'antenne. Les pyramides existaient aussi sous l'Ancien Régime. On ne les a pas interdites pour autant. Vous étiez la voix de l'Égypte. La révolution fera de vous la voix des Arabes. Elle tend son mouchoir vers le trou noir, mais le public n'arrive pas à s'arrêter. Vive l'Égypte ! Au premier rang, ils sont tous là, les chefs de la révolution en grand uniforme. Naguib, Amer, Sadat, Nasser. Ils ont rendu la terre aux paysans, exproprié les grands propriétaires. Les acclamations tournent à l'émeute. Au début, les frères musulmans ont soutenu la révolution. Mais très vite, c'est devenu trop laïque pour eux. Et Nasser, à la télévision, les tourne en ridicule. J'ai rencontré le chef des frères musulmans. Qu'est-ce qu'il m'a demandé ? La première chose, que toute femme qui marche dans la rue en Égypte soit voilée, toute femme. Je lui ai répondu, Cher monsieur, toi qui as une fille étudiante à la faculté de médecine, tu es incapable de la voiler. Comment veux-tu que moi, j'impose le voile à 10 millions d'Égyptiennes? Les choses deviennent plus sérieuses quand Nasser échappe à un attentat. Des coups de feu sont tirés contre sa voiture. Une répression terrible s'abat alors sur les frères musulmans. Des milliers de leurs membres sont jetés dans les prisons où ils retrouvent les militants communistes enfermés avant eux et qu'ils détestent. Le tireur maladroit permet à Nasser de prendre les pleins pouvoirs et le peuple l'acclame comme l'homme du destin. La voix d'Oum Kulsoum s'envole sur les ondes de la voix des Arabes. Le monde arabe tout entier est réuni autour des postes de radio. C'est mon poème qu'elle chante, Zikrayat. Je l'ai écrit comme on proclame sans honte la passion d'une vie. Souvenirs sont dans mon rêve, comme un diamant sur les ailes de la nuit. Comment pourrais-je les oublier? Comment calmer mon cœur? Les souvenirs disent l'histoire de mon amour. Soudain, dans le poste, la voix inimitable de Nasser fait vibrer l'air. Il dit: ô enfants de notre grand peuple arabe, nous sommes des millions, des dizaines de millions, un seul peuple arabe du Golfe à l'océan, porteur d'un message éternel. Et devant les hommes rassemblés, la terre entière, Nasser annonce l'incroyable nouvelle, si simple pourtant, le canal de Suez est nationalisé.
Vous entendez probablement le bruit sourd des bombes qui sont en train de tomber sur Héliopolis. Il est exactement 22h du Caire et du 31h.
Tout de suite, Anglais et Français répondent par la guerre. Ils bombardent nos aérodromes, attaquent Port Saïd, marchent sur Ismaïlia. Le fer et le sang, des morts et des blessés par milliers. Israël se met de la partie. Ses parachutistes sont largués au-dessus du canal de Suez. L'agression tripartite, comme on l'appelle, est en marche. Tes amis, regarde ce qu'ils nous font, tes amis, me dit-elle, méprisante. Elle n'a pas tort. Pour la première fois, je vomis l'Occident pseudo-démocratique. Heureusement pour nous, Américains et Soviétiques obligent les agresseurs à reculer. Le temps des colonisateurs européens s'achève. Celui des deux nouvelles superpuissances commence. Nasser devient le héros du tiers-monde, l'idole du monde arabe. La bataille inégale a tourné miraculeusement en notre faveur. Nous avons gagné. Nous avons perdu aussi. Mais il m'est impossible d'expliquer ça à Oum Kulsoum. Nasser nationalise les grandes sociétés étrangères, mais en même temps, il ficha la porte des milliers de Grecs, Italiens, Français, Maltais, Britanniques, toutes les minorités. Alexandrie, ville du mélange, plie bagages par quartier entier. Beaucoup de Juifs parmi les effrayés, parmi les expulsés. Ils vivaient sur cette terre depuis la nuit des temps, mais Israël a jeté une suspicion sur leur loyauté. Le disque et le cinéma n'auraient jamais connu un tel essor sans eux. Tout un héritage, un pan constitutif de notre culture, est arraché. Des scènes déchirantes se déroulent sur les quais d'Alexandrie, pendant que dans les cités ouvrières, le peuple célèbre le départ des exploiteurs. Notre défaite, elle est là. Elle est debout sur scène encore une fois, mais le public ne crie pas son seul nom. Il hurle aussi celui d'Abdel Wahab, le rival de toujours. Elle et lui, main dans la main, bras levés face à la multitude, lancent leur œuvre commune, Enta Omri. Tu es ma vie. Cette promesse de travailler ensemble que Nasser leur avait arrachée, ils la tiennent enfin. Ses lèvres s'ouvrent. Les vers ne sont pas de moi, et pourtant ses yeux m'accrochent et ne me quittent plus. Elle chante. Les belles nuits, le désir et l'amour depuis longtemps, mon cœur les a mis de côté pour toi. Pour moi, pour moi. Ses lèvres touchent le micro. Elle murmure d'une voix enrouée. Goûte avec moi l'amour, goûte. Et la salle s'écroule. Elle rit encore, en pure provocation. Et reprend le verre, goûte avec moi, qui se réduit bientôt au seul mot, goûte, qu'elle prononce sur tous les tons, de la façon la plus suggestive. Elle a plus de 60 ans, elle ose, elle n'a plus honte. Enfin.
عودنا معا في أوقات النصر وفي أوقات المحنة في الساعات الحلوة وفي الساعات المرة.
Le visage de Nasser occupe tout l'écran, noir et blanc, ou plutôt gris, avec des lignes qui passent lentement, de haut en bas. Sa voix brisée me pénètre. Ô enfant de notre peuple, nous avons pris l'habitude de nous asseoir ensemble et parler ensemble, dans les moments heureux, comme dans les moments amers. Viennent ensuite les mots fatidiques. Il nous faut reconnaître que c'est une grande et grave défaite. Depuis 4 jours, à la radio, les communiqués de victoire se succédaient. Peut-être était-il exagéré, mais ça, le chef lui-même le dit. Grande, grave, défaite. Mais c'est seulement quand il dit « Laissez-moi revenir dans les rangs du peuple, et poursuivre ma tâche comme n'importe quel citoyen qu'on réalise vraiment. Il jette l'éponge. Il nous abandonne. Cette défaite, 6 jours seulement. Je me vois dévalant les escaliers en compagnie de mon fils. Tout le Caire fait pareil au même moment. Et Beyrouth, et Damas, et Bagdad, Alexandrie, Alger. Les gens hagards sortent des immeubles pour vivre la fin du monde. Je suis l'un d'eux, poussé à droite, poussé à gauche, avançant dans le chaos. Assourdi par une voix cassée, hurlant encore et encore, « Nasser, Nasser !» et reconnaissant soudain que cette voix, c'est la mienne. Spontanément, les foules convergent vers le palais présidentiel. Partout on crie « Non !» Non et c'est tout. C'est la réponse à la question. Sommé de choisir, le peuple arabe paralyse d'instinct toutes ses villes. Au petit matin, Nasser annonce qu'il revient sur sa décision. La guerre n'est pas encore finie. Les Israéliens avancent toujours dans le Golan syrien. Au même moment, les peuples arabes expriment de la joie. Ils ont perdu la partie, mais pas leur berger. Tant qu'à courir à l'abîme, autant que ce soit avec lui. Père failli, père quand même. Je suis soulagé moi aussi. Comment ne pas l'admettre? Ce peuple, j'en fais partie. Elle ne sort plus de sa chambre. On ne la voit plus. Un soir, ce titre en première page. J'accuse Oum Kulthoum, l'étoile de l'Orient, d'avoir été l'opium du peuple. Je cours chez elle. La porte de sa chambre s'ouvre à la volée. Elle apparaît, le journal à la main. Elle dit : Le moment des lamentations est passé. Le deuil a assez duré. Maintenant, il faut recommencer à se battre. Elle va entreprendre un tour du pays, ville par ville, partout où la défaite est passée. Je l'accompagne. Elle donne récital sur récital. Sur scène, elle annonce qu'elle offre tout l'argent de sa tournée à l'effort de guerre. Les boucles d'oreilles que l'émir du Koweït lui a offertes, les colliers, les bracelets, elle les jette comme on se déshabille, dans un drapeau tendu par 4 hommes. Le drapeau fait le tour de la salle, et toutes les femmes font pareil. Après la tournée du pays, elle s'envole pour le monde arabe et pour Paris. Où elle chantera à l'Olympia. Thank you. Au Maroc, elle chante Al-Atlal, les ruines, un poème magnifique de Nagui. Mon cœur ne demande pas où est le désir. C'était un palais de songes et il s'est écroulé. Donne-moi à boire et bois avec moi sur ces ruines. Nous avons cru, nous avons tendu les mains. Nous sommes toujours à la porte du monde. Nous n'allons pas pleurer pour autant. Nous avons tout de même brûlé, tout de même aimé. Elle crie, « Rends-moi ma liberté, dénoue-moi les mains. » Une clameur insensée soulève la salle. Une délivrance du fond du cœur. On hurle, on pleure sur quelque chose de très important qu'on a perdu. On aurait bien voulu savoir quoi. Pourquoi m'a-t-on amené ici ? Je suis debout à l'entrée de la tente de deuil géante plantée au milieu de la rue. Des inconnus en cravate me serrent la main en murmurant des condoléances. Qu'est-ce qu'ils me veulent ? On murmure qu'elle est morte, mais c'est impossible. Je dois sortir d'ici. Dehors, le soleil m'accable. Je titube. Je me retourne. Les pans de la grande tente s'écartent. Les lèvres de la blessure rouge. Et le sarcophage sort. Couché sur un tourbillon d'insectes affolés. Abdelwahab m'a pris par le bras. Il me force à avancer. Je fais partie de la chaîne, mais je n'arrive pas à suivre le rythme. Les tambours cognent trop fort, mes pieds retombent toujours à contre-temps. Le sarcophage tangue au-dessus des têtes, de longues barres de bois le font reposer sur les épaules de 2 douzaines de pompiers. Les gens, agglutinés sur les balcons, grappes noires accrochées aux façades, aux immeubles. Le cortège serpente à travers l'espace. À l'horizon de la place, très loin, une foule immense, effrayante de silence, est retenue à grand-peine par un cordon de police, qui soudain lâche sous la pression. Ils sont plusieurs centaines de milliers, ils sont 1 million. Je sens monter en moi une joie sauvage. La marée humaine s'écrase contre les uniformes, le dernier cordon lâche, et la vague humaine géante nous submerge, elle m'arrache à la chaîne et m'entraîne. Je me retourne pour voir Abdelwahab emporté de son côté, levant le bras dans ma direction. Le sarcophage remue comme s'il était pris dans des rapides. L'escadron de pompiers s'agrippe, mais il perd soudain le contrôle. Les barres de bois disparaissent et le sarcophage se met à flotter librement au-dessus des têtes. Il passe de bras levés en bras levés, de main en main. Je le vois zigzaguer à travers l'espace, comme s'il ne savait plus quel chemin prendre. Toutes les avenues sont bouchées. Je le vois s'éloigner au-dessus du fleuve humain immobile, danser comme une embarcation ivre, se perdre dans les clameurs, léviter au-dessus d'elle, disparaître à l'horizon. Il a longtemps vogué sur la foule à laquelle il appartient. Il s'est usé au contact des mains calleuses, des gestes répétés. Il s'est finalement dissous dans le corps, l'âme de chaque homme, sa vraie éternité. Nous sommes en 1981. Elle a disparu il y a 6 ans. Ne pas être mort avant elle m'a annihilé. Même à cette douleur, je suis devenu indifférent, comme à tout. Par exemple, quand le président Sadat a été assassiné par un soldat de sa garde, ça ne m'a rien fait. Nous avons voulu rejoindre le monde. Les islamistes qui lui ont tiré dessus sont le divorce d'avec le monde. Elle est morte sans descendance, c'est ça. Aucune autre voix n'est fille de la sienne. Aucune n'est née d'elle. Elle a été l'héritière de tout un art, mais héritière dernière, éblouissante. Et après, rien. La Renaissance qui devait secouer notre culture, l'abattre comme un tapis ancien pour en raviver les couleurs incomparables, a tourné court. Voilà la vérité. Ces soldats islamistes qui ont ouvert le feu en criant « Allahu Akbar, Dieu est le plus grand » sont finalement les enfants de notre échec, nos seuls enfants. Il n'y aura pas de modernisme oriental, il n'y en aura pas. Mais d'autres gens viendront, d'autres révoltes, d'autres musiques. Parce que quelque chose dans l'humain est indomptable. S'ils ont été assez puissants, les rêves peuvent aller sous terre et voyager longtemps. Survivre comme des graines qui savent résister à l'hiver pour refleurir un jour. Mais peut-être que je me trompe, je ne sais plus rien. Il ne s'est peut-être rien passé en vérité. Un pollen emporté par le vent. Une illusion, rien qu'une chanson. Elle, Oum Kalsoum. Une création sonore de Selim Nassib et Philippe Cohen-Solal, réalisée par Céline Ters. Texte de Selim Nassib. Musique originale de Philippe Cohen-Solal. Avec Sig au violoncelle, Fairouz Karaouia au chant. Prise de son, Claire Levasseur, Patrick Muller. Mixage, Bruno Mourlan. L'expérience de Aurélie Charon et Inès Dupéron. Remerciements à Frédéric Lagrange et Diffy Mariani.
On se retrouve dimanche prochain à 21h pour l'expérience. De l'Égypte, on partira en Afghanistan, en immersion dans une maison familiale à Kaboul. En attendant, vous écoutez France Culture, il sera bientôt 22h, et vous retrouvez François Saltiel dans Le Meilleur des Mondes.